Chapitre 28. Comment se fait-il, observa un soir Odile, que ta belle-mère n'ait pas encore eu la curiosité de venir chez toi? Si elle t'aimait autant que tu le prétends, il me semble qu'elle aurait eu la curiosité de voir ton appartement, malgré la peur qu'elle a de me rencontrer. Au cours de cette dernière semaine, Odile avait feint de trouver naturel que son mari se rendît chaque jour à l'hôtel des grands hommes. Plusieurs fois, il lui était apparu qu'elle eût dû l'accompagner, ne serait-ce que par déférence pour une femme plus âgée qu'elle, et qui, malgré tout, avait été comme une mère pour Jean-Noël. Mais depuis qu'elle était mariée, ainsi que ces personnes intransigeantes, qui deviennent semblables à des agneaux dès qu'elles ont obtenu gain de cause, elle demandait sans cesse conseil à sa famille. M. Wurzel lui avait alors fait remarquer qu'elle était censée ignorer que Mme Etzlinger fût à Paris. « Veux-tu que j'invite Annie à déjeuner ?» demanda Jean-Noël. « Elle acceptera certainement. » Dans sa joie de revoir sa belle-mère, il n'avait pas songé que les Wurzel pussent tenir grief à une femme dont ils avaient dit tant de mal de ne pas chercher à les voir. « Nous n'avons pas besoin de la supplier. Si elle avait eu envie de venir, elle serait venue sans qu'on le lui demande. » Jean-Noël sentit que ce n'était pas seulement la susceptibilité d'Odile qui était froissée, mais celle de toute la famille Wurzel. « Elle a eu peur de s'imposer, » expliqua-t-il. « C'est ma faute. J'aurais dû l'inviter, mais je n'y ai pas pensé. » Il n'avait pas, au fond, le désir que les deux femmes se rencontrassent. Il craignait qu'elles ne se dressassent l'une contre l'autre, qu'Odile ne profitât de la présence de Mme Etlinger pour prendre la main de son mari et lui jeter des regards en coulisses. À la seule pensée d'un déjeuner où ils seraient tous trois réunis, il se sentait mal à l'aise. Aussi, quand il revit sa belle-mère, se garda-t-il de l'inviter. « Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria Odile. « Cela signifie que je ne veux pas aller au-devant d'un refus, » répondit son mari. « Ta belle-mère refuse de venir ici ? Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi tu vas la voir. Tu as une femme à présent. Ta belle-mère viendrait déjeuner ou dîner de temps en temps chez toi, qu'il n'y aurait rien de plus naturel. Tu lui as peut-être caché que tu étais mariée. » « C'est la première chose que je lui ai dite. D'ailleurs, elle le savait déjà. Alors, pourquoi ne vient-elle pas ?» Odile allait et venait, en proie à une grande agitation. N'était-ce pas un affront que lui faisait Mme Etlinger? Soudain, elle s'immobilisa devant Jean-Noël. « Tu as raison, » dit-elle, « il est plus correct que ce soit moi qui fasse la première visite. Demain, je t'accompagnerai. » Quand Odile et Jean-Noël demandèrent à Mme Etlinger au bureau de l'hôtel, on les pria de monter. « Ce n'est pas la peine de lui dire que j'ai habité ici, » fit Jean-Noël dans l'escalier. À peine aperçut-elle Annie, qu'Odile s'avança avec précipitation vers elle, comme l'eût fait une fille revoyant sa mère après une longue absence, cependant que son mari refermait lentement la porte, de manière à donner le temps à cette première effusion de se passer. « J'ai appris par Jean-Noël, » dit Odile, « que vous étiez de retour à Paris, et j'ai voulu immédiatement vous voir. » « J'en suis très touchée, » dit Mme Etlinger en désignant un fauteuil. Elle n'était pas du tout surprise par cette visite, son beau-fils l'ayant prévenue par téléphone dans la matinée. À peine assise, Odile examina furtivement la chambre. « Cet hôtel des grands hommes, » observa Annie, avec cette expression de respect moqueur qu'elle avait toujours quand elle prononçait ce nom, « est bien incommode. » « Mais je crois que, si vous le voulez bien, on nous montera de la citronnade, à moins que vous n'aimiez mieux autre chose. »« Oh, madame, je ne veux pas vous déranger. D'ailleurs, nous ne sommes venus que pour un instant. Je voulais vous prier de venir déjeuner demain, si vous pouvez. » Madame Etlinger parut enchantée de cette invitation. Elle avait beaucoup à faire, mais elle se rendrait libre. Elle accompagna les jeunes époux jusqu'à l'escalier. Cependant qu'ils descendaient les marches, Mme Etlinger, debout sur le palier, agitait sa main droite en signe de revoir et souriait non à son beau-fils, mais à Odile, avec cette délicatesse qui lui avait toujours fait réserver le meilleur de ses adieux à la personne d'un groupe qui lui était présenté pour la première fois. Mais dès que Jean-Noël et sa femme eurent disparu, son visage devint grave. Elle rentra dans sa chambre, ouvrit les volets que la domestique de l'étage avait fermés, tira son lit afin qu'il se trouvât à 1 mètre du mur, écarta les rideaux, les tentures, si bien que ces mêmes carreaux, derrière lesquels on devinait le ciel étoilé, reflétèrent la pièce comme une glace, car la nuit, elle aimait l'espace. Puis elle alluma une cigarette, prit un livre et s'assit dans un fauteuil. Toute la matinée du lendemain, Odile la passa en préparatif. Elle voulait recevoir dignement Madame Ettlinger. À la première heure, elle s'était rendue chez son père pour lui demander des conseils. Celui-ci avait appelé sa femme, qu'on ne manquait jamais de consulter dès qu'il s'agissait d'étiquette et de réception. À midi et demi, Annie arriva rue de Babylone. Elle fut introduite dans le salon, où elle ne fut rejointe par Odile que quelques minutes plus tard. C'était une grande pièce, avec 2 fenêtres à guillotine donnant sur la rue. Celle-ci et l'inclinaison du parquet étaient tout ce qui restait de l'apparence première de cette pièce. Les boiseries avaient été enlevées, les murs peints à la fresque, les vieilles portes remplacées par des pépinots de citronniers. Comme le temps était sombre et orageux, que l'appartement était situé au premier étage, le lustre, fait de plaques de verre superposées, était éclairé, ce qui donnait un faux jour. Dans la salle à manger, d'où on apercevait un jardin de couvent, l'atmosphère était heureusement plus gaie, mais cela n'empêcha pas une certaine gêne de planer sur tout le repas. « C'est justement à cause de ces jardins, dit Odile, que nous avons choisi cet appartement. Ils sont si rares au cœur de Paris. » Aussitôt après le déjeuner, Odile, en personne qui ne s'attarde jamais à table, se leva. Annie l'imita sur le champ. On devinait que, depuis qu'elle était chez son beau-fils, elle s'appliquait à respecter toutes les petites convenances bourgeoises. Pendant tout le repas, bien qu'elle eût horreur des bavardages, elle n'avait pas essayé une fois de mettre la conversation sur un sujet qui l'intéressait. Ça avait été par simple politesse qu'elle avait fait quelques compliments sur le goût d'Odile. Jean-Noël avait senti combien ce genre de vie avait non pas déplu, mais paru incompréhensible à Annie. S'il avait pu, il lui eût dit que celui-ci lui avait été imposé, tellement il lui était désagréable que sa belle-mère, dont il aimait à partager les idées et le respect méprisant pour les habitudes de chacun, crut qu'il était aussi fier que sa femme de cette existence. Madame Ettlinger ne comprenait pas en effet qu'on pût se soucier de son confort. Quand on apporta le café au salon, Odile regarda longuement une tasse et la fit remplacer par une autre. La conversation reprit. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Odile, qui était silencieuse, pour paraître n'avoir rien entendu, dit « Mon père m'a chargé de vous inviter. Nous avons beaucoup parlé de vous. Je voulais justement aller le voir. » Madame Ettlinger ne disait pas la vérité, mais comme elle avait compris que ce qu'on attendait d'elle était ce qu'on eût attendu d'une amie de la famille Wurzel, c'est-à-dire de prendre au sérieux des rapports auxquels elle n'attachait aucune importance, elle feignait, avec cette courtoisie sans lendemain qui lui était particulière, d'être très touchée par tout ce qu'on lui disait. À ce moment, la porte s'ouvrit et une domestique s'avança, sans oser pourtant interrompre la conversation. Odile se leva en s'excusant d'être toujours dérangée. Elle échangea quelques mots avec la domestique, puis revint après avoir soigneusement refermé la porte. Elle tourna la tête vers son mari. Leurs regards se rencontrèrent et il comprit ce qui venait de se passer. Il y avait 9 mois, lorsque Jean-Noël s'était séparé de Madame Mourier, celle-ci, qui jusque-là avait toujours tenu Madame Mercier et Émile à distance, s'était subitement rapprochée d'eux. Elle avait pensé que, de la sorte, si Jean-Noël venait à se libérer de l'influence qu'elle avait sur lui, elle n'en continuerait pas moins à jouer un rôle dans sa vie, car elle avait prouvé souvent qu'elle attachait un plus grand prix à conserver des relations d'amitié avec tous les hommes qu'elle avait aimés qu'à ses amours elle-même. Madame Mercier, malgré sa méfiance, avait été touchée par ses avances. Elle s'était découvert certains points communs avec Laure. Celle-ci n'avait-elle pas eu à souffrir de Jean-Noël autant qu'elle-même de M. Ettlinger? Celui-ci avait transmis tous ses défauts à son fils. mais à partir du jour où Odile s'occupa d'Émile et le fit entrer chez son père, Madame Mercier espaça ses relations avec Laure, puis les rompit, comme si Madame Mourier, ayant prévu les faveurs dont allait bénéficier Odile, s'était donné le mal d'entretenir des rapports amicaux avec Madame Mercier, dans l'espoir de recueillir quelques miettes de ses faveurs. Laure avait deviné les raisons de ce changement. Si, sur le moment, elle les avait méprisées, quand Annie était venue la trouver pour lui demander l'adresse de Jean-Noël, elle s'en était souvenue. Avec une fausse sollicitude, elle avait alors mis en garde Madame Mercier contre les dangers que ce retour pourrait faire courir à la situation d'Émile. Madame Mercier, déjà encline à se croire persécutée, n'avait plus songé qu'à protéger son fils. La femme de chambre, sur la prière d'Odile, demanda à Madame Mercier, car c'était elle qui avait sonné, d'attendre dans le cabinet de travail de Jean-Noël. Annie avait remarqué que quelque chose se passait. Comme elle avait hâte de partir, elle en profita pour se lever. Jean-Noël et sa femme la reconduisirent. « J'ai été très heureuse, dit Madame Ettlinger à Odile, de vous avoir revue. » Elle s'interrompit brusquement. Dans l'entrée, immobile, se tenait Madame Mercier. Malgré l'insistance de la femme de chambre, elle était restée dans le vestibule, soupçonnant déjà la présence d'Annie. « À bientôt, j'espère, » reprit Madame Ettlinger, comme si de rien n'était. « Ah, c'est vous, madame !» s'écria Madame Mercier en dégageant le bras que Jean-Noël lui avait pris. Elle était si émue qu'elle avait balbutié ces mots. Quoique depuis une dizaine d'années, elle n'eût jamais tenté de revoir Annie, il ne s'était pas passé de jour qu'elle n'eût projeté de dire à sa rivale ce qu'elle pensait de son odieuse conduite, qu'elle n'eût invectivé contre celle qu'elle appelait intrigante, séductrice et bien autrement. « Je savais, continua-t-elle, qu'un jour, le hasard vous mettrait sur mon chemin. »« Calmez-vous, madame, lui dit Annie avec bonté. » Elle était pâle, mais elle n'avait pas cette attitude que prendrait une passante, interpellée par un inconnu. Elle semblait, au contraire, reconnaître que Madame Mercier avait des raisons de lui en vouloir, des raisons qui provenaient de l'ignorance de ce qui s'était passé. Jadis, bien que l'attachement de Jean Melchior lui eût paru d'une sincérité absolue, chaque fois qu'elle avait seulement songé à Madame Mercier, elle avait été prise d'un malaise. Aussi, en la revoyant aujourd'hui, sans éprouver le moindre trouble, fut-elle frappée par sa propre indifférence. L'amour qu'elle avait eu pour son mari était-il mort, lui aussi, pour que cette femme n'éveillât même pas un souvenir ? « Ah, je savais bien que je vous rencontrerais un jour !» continua Madame Mercier. « L'injustice du monde aurait été trop grande. »« Je t'en prie !» fit Jean-Noël. « Laisse-moi parler. Tu es son complice. L'injustice aurait été trop grande si je n'avais pu vous dire en face que vous l'avez tué, mon mari. Car il était mon mari plus que le vôtre. » C'était brusquement que Madame Mercier s'était emportée. Ce qui lui donnait la force de crier comme elle le faisait, ce n'était plus la vieille histoire, mais le sentiment que, si ce drame l'avait laissée, elle, seule et sans ressources, il n'avait en rien modifié la vie de Madame Ettlinger. « Je crois qu'il est inutile que nous demeurions plus longtemps en présence, » dit Annie avec un calme qui ne fit qu'accroître la colère de Madame Mercier. « Et vous ne l'avez même pas aimée, » continua celle-ci. Jean-Noël, que cette scène bouleversait, remarqua qu'Odile était impassible, un peu comme une personne qui a pris le parti de ne jamais se mêler des conflits d'autrui. Il lui fit signe d'intervenir. Elle ne bougea pas. À ce moment, la colère de Madame Mercier tomba. Toute sa vie, elle avait harcelé Madame Ettlinger, toute sa vie, elle l'avait poursuivie de sa haine, si bien qu'elle s'était imaginée que le jour où elle la rencontrerait, tant de vérité sortirait de sa bouche que sa rivale en serait réduite à lui demander pardon. Cet espoir, en s'évanouissant, lui avait enlevé toutes ses forces. Quelques larmes coulèrent de ses yeux. Jean-Noël crut un instant que sa belle-mère aurait pitié de Madame Mercier. Il n'en fut rien. Annie ignorait cette femme. Elle n'eût eu qu'un geste à faire pour la secourir, elle ne l'eût pas fait. Sur le palier, Jean-Noël demanda à Annie si elle voulait qu'il l'accompagnât. Mais comme il ne s'était rien passé, Comme si c'était le plus normalement qu'elle prenait congé, elle refusa. Elle prendrait un taxi. Elle avait beaucoup de courses à faire. « Viens demain soir si tu veux, » ajouta-t-elle cependant. Il la regarda partir. Elle avait déjà descendu quelques marches lorsqu'elle se retourna et lui sourit avec beaucoup de tendresse, car l'effet principal de la scène qu'elle venait de subir avait été de lui faire songer qu'elle avait été vraiment bonne d'avoir sauvé son beau-fils de l'éducation qu'une femme comme Madame Mercier lui aurait donnée. Lorsque Jean-Noël revint dans l'appartement, un spectacle inattendu s'offrit à ses yeux. Madame Mercier était assise, accoudée sur une table, la tête dans ses mains. Odile, penchée sur elle, dans cette attitude à demi compatissante qui vous fait poser la main sur le dossier au lieu de la poser sur les épaules, lui parlait à voix basse, essayant visiblement de la réconforter. Jean-Noël, immobile, regarda un instant cette scène. Odile se retourna, mais sans se redresser, le visage calme comme celui d'une infirmière que la modeste condition d'un malade n'empêche pas de faire son devoir. Cette pseudo-charité ne fit qu'accroître la colère de Jean-Noël. Il regarda durement sa femme. Elle se releva, s'écarta, comme on le fait pour laisser la place à quelqu'un de plus habile que soi. Madame Mercier aperçut son fils. Elle poussa un petit cri, se cacha de nouveau le visage. Il y avait des années que Jean-Noël n'avait pas vu sa mère dans un pareil état. Cela lui rappela les scènes dont, enfant, il avait été le témoin. Ses larmes, ses torsions de mains, n'étaient-elles pas semblables à celles qu'il avait tant effrayées jadis, parce que, à cause d'elles, son père avait souvent hésité à le conduire chez Mademoiselle Villemur ? Jean-Noël, il ne faut pas faire de la peine à ta mère, dit Odile, qui feignait de croire que son mari était avant tout un bon fils. Elle se prévalait de ce qu'il n'avait jamais dit ni de bien ni de mal de sa mère pour y voir l'aveu d'une affection qu'elle savait pourtant inexistante. Lorsqu'un quart d'heure plus tard, Madame Mercier partit, il ne put se contenir davantage. « Pourquoi tu pris la défense de ma mère ? » demanda-t-il avec dureté. « Tu sais bien que je n'ai pas pris sa défense, » répondit Odile, comme surprise que son mari ait pu la soupçonner d'agir d'une manière aussi contraire à son désir. « Tu n'as donc pas compris, » continua-t-elle, comme pour se faire pardonner d'être si bonne, « pourquoi j'ai agi ainsi ? Ta mère est quand même une pauvre femme. Il ne faut pas être inhumain. Tu ne dois pas lui en vouloir. Cette rencontre, le hasard seul, en est responsable. »